Mesdames et messieurs, bonjour. Ravie de vous accueillir ce matin au casino de Morges. Bienvenue au brunch annuel de l'Hebdo, au livre sur les quais. Merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous assembler et de vous rencontrer. Alexis Yeni est un homme extraordinaire. Il a eu le prix Goncourt en 2011 pour son premier roman, c'est très rare, L'art français de la guerre, ce qui est arrivé à très peu d'entre nous. Il a été prof de lycée, enseignant de sciences de la vie et de la terre dans un lycée à Lyon, et c'est un métier extraordinairement courageux et louable. Il a survécu au Goncourt, contrairement à d'autres, puisque depuis 2011, il a publié quelques 6 livres, dont un autre roman, La nuit des Valenams, un recueil de textes brefs, un essai qui a reçu le prix Spiritualité d'aujourd'hui en 2015, un ouvrage collectif sur le monde au 22e siècle, et puis un essai avec l'historien Benjamin Stora sur un sujet tabou en France qui est l'héritage du colonialisme aujourd'hui et puis les racines du FN, ouvrage dont nous parlerons aussi évidemment aujourd'hui. C'est un homme qui n'a pas honte de faire des déclarations d'amour à sa femme, puisque son nouveau livre, Dans l'attente de toi, qui sort d'ailleurs en exclusivité au livre sur les quais ce week-end, en est une 100% qui s'étale sur plus de 200 pages. Il est donc non seulement intelligent, sensible, mais en plus c'est un très gai compagnon qui sait s'amuser, je suis témoin, pour l'avoir invité dans un salon du livre dont je m'occupe. Il n'est de très loin pas le premier à quitter les pistes de danse des fêtes des auteurs. Mesdames et messieurs, merci donc d'accueillir un homme extraordinaire, Alexis Yeni. Voilà, merci. Voilà, Alexis Yeni, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Voilà, ben merci d'avoir accepté.
Merci de cet éloge, il faut voir que je sois à la hauteur.
Oui, extraordinaire, ça veut déjà dire que vous n'êtes pas comme nous. Hein. Alors ça, c'est 100% confirmé. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo. Comment allez-vous ce dimanche matin?
Ah bah très bien, très bien.
Ouais. Vous faites quoi d'habitude le dimanche matin?
D'habitude, le dimanche matin, je n'écris pas. C'est le jour où je n'écris pas. Et je vais, avec quelques copains, courir le long du Rhône à Lyon. Et puis, bon, là, je leur ai envoyé une petite image.
Vous avez couru le long du Léman ?
Ah non, pas du tout. Alors là, carrément, j'aurais envoyé une petite photo du Léman avec des pêcheurs. Et je leur ai dit, voilà, il y a le Mont Blanc, des pêcheurs et des géraniums. Il ne faut pas stresser.
Donc, vous voulez dire que le Léman invite un peu à la paresse ?
Invite à la contemplation. C'est-à-dire que moi, je me lasse pas du Léman. C'est-à-dire que chaque fois que je viens à Morges, je suis déjà venu plusieurs fois, je reste pendant de longues périodes à regarder bêtement le lac, les montagnes au fond, et puis cette espèce de petite brume lumineuse qu'il y a au mois de septembre. Et je trouve ça magnifique. Et d'ailleurs, même la première fois où je suis venu, le dimanche matin, il a fallu qu'on m'appelle à l'hôtel parce qu'on s'inquiétait de ne pas me voir arriver. Et j'avais complètement oublié l'heure. En fait, je regardais un bateau qui passait. Et il flottait entre le reflet de l'eau et la brume, etc. Et j'étais fasciné par ça. Je trouvais ça très beau.
Ben, plaignez-nous qui habitons le long du Léman. Vous voyez si c'est difficile de travailler dans ces conditions.
C'est pas facile.
Ouais. Bon, en fait, vous avez grandi pas très loin de la Suisse, hein, dans l'Ain, la région du Bugey. Finalement, ici, vous êtes un peu chez vous.
Ah, ça ressemble tout à fait. Hein. C'est vraiment, moins d'une centaine de kilomètres de là, mais c'est un peu la même végétation, la même lumière. Bon, les lacs sont plus petits, mais c'est vrai que voilà, j'ai une familiarité avec cette région et un goût profond pour la nature telle qu'elle est dans ces régions-là. Voilà, ces montagnes boisées avec des petites falaises de calcaire blanc, chaque fois que je vois ça, quand je reviens d'ailleurs et je vois ça, je me sens chez moi.
D'accord. Lyon, c'est toujours votre ville ?
Lyon, oui, toujours. Oui, c'est la ville où je suis bien. Alors après, voilà, le métier est à Paris. Hein. La France est un pays centralisé. Mais Lyon, c'est là où je me sens tranquillement chez moi. Et quand je descends du train à la gare, je prends une grande respiration et je dis ouf.
Alors c'est vrai, le Goncourt en plus, donc en 2011 en plus pour un premier roman, aurait dans le fond sans doute écrasé n'importe qui d'autre. Vous avez passé dans le fond de l'anonymat à une très grande exposition. Votre vie a changé, mais et vous, ça semble au contraire vous avoir libéré depuis 2011. Finalement, vous publiez 1-2 titres par an. Racontez-nous, ça a changé quoi dans votre vie, ce Goncourt, non seulement votre vie un peu quotidienne de tous les jours, mais aussi qu'est-ce que ça a libéré peut-être mentalement, intellectuellement, psychologiquement?
Alors ça, c'est lié aussi à mon histoire particulière, c'est-à-dire que moi j'ai écrit pendant 20 ans. J'étais professeur de sciences naturelles, donc j'ai pas fait d'études de lettres, mais je ne voulais pas en faire, je veux toujours pas en faire. J'écrivais, mais tout ce que j'écrivais, je l'envoyais à des éditeurs et j'étais refusé. Donc j'ai une collection de lettres de refus absolument incroyable, pour toutes sortes de raisons. Et je continuais d'écrire. Et en gros, la stratégie, c'était, j'écrivais, quand j'avais fini, j'envoyais, mais avant de recevoir les réponses, ça pouvait prendre du temps, hein, parce que j'envoyais partout, je commençais l'écrit suivant. Et donc, quand j'ai envoyé L'art français de la guerre aux éditeurs, en attendant la réponse, je commençais à écrire la suite, autre chose, le livre suivant. Et puis, je m'attendais à ce qu'ils me le renvoient en disant ceci ne prend pas place dans nos collections, etc. Et finalement, j'ai été, j'ai reçu un coup de fil de Gallimard en disant oui, on va le prendre, c'est intéressant. Et alors, voilà, donc 20 ans. Alors, là,
Comment on trouve la force de persévérer, l'envie, malgré tout?
J'avais déjà commencé le suivant et j'étais...
Mais pendant 20 ans,
je sais pas.
Se décourage pas?
Alors je commençais à me dire, peut-être je suis pas très doué pour la littérature, mais c'est pas grave, j'aime faire ça. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui joue du piano, et puis qui fait pas de concert, mais qui joue quand même. Parce que c'est bon de jouer. Et donc, j'écrivais parce que c'est bon d'écrire. D'abord, ça me permet de comprendre les choses, ça me permet de comprendre un petit peu mon environnement que je ne comprends pas autrement. Ça me permet d'avoir un plaisir profond de mettre en scène le langage. Moi qui aimerais être musicien, qui ne le suis absolument pas, totalement incapable, ça me permet de plonger dans la musique de la langue, etc. Enfin, ça me permet plein de choses. Alors après, quand on est publié, c'est mieux. Quand on est publié et qu'on est lu, c'est encore mieux. Quand on est publié, qu'on est lu, que les gens ils aiment bien, etc., c'est superbe. Mais n'empêche qu'au départ, il y a écrire. Et écrire, déjà, en soi, c'est quelque chose d'énorme que je pratique depuis très longtemps. Donc, peut-être que si j'avais pas été publié, j'aurais continué d'écrire, mais peut-être un peu plus lentement, peut-être qu'il y aurait un léger découragement, mais pendant ces 20 ans, il n'y a pas eu de semaine où je n'ai pas écrit. C'était vraiment une sorte de... Et alors, par contre, je m'en vantais pas. C'est-à-dire que quand on a dépassé 40 ans qu'on écrit et qu'on n'est pas publié, on fait profil bas.
Personne ne le savait autour de vous. La famille sans doute, mais
les
amis.
Il y avait ma femme, mes enfants. Il y avait deux amis. Un parce que c'est un ami de toujours, on se connaît depuis le collège. Et l'autre parce que lui, il est plutôt dessinateur plasticien et il avait du mal à faire connaître son travail. Donc chaque fois qu'on se voyait, on se demandait où c'est qu'on en était, et bon, la conclusion c'était nulle part.
Bon, alors depuis 2011 tout a changé, vous êtes désormais un écrivain professionnel, vous avez arrêté peu après l'enseignement.
Alors j'ai essayé de me mettre à mi-temps, vous parliez de qu'est-ce qui a changé intellectuellement, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'autorisation d'écrire, s'autoriser à écrire. Alors c'est pas tellement que les autres m'autorisent à écrire, c'est que moi-même, je me rends compte que ce que j'ai écrit quand on regarde ce qu'on a écrit, vous savez, on est jamais très très satisfait. Il faut toujours lutter contre le dégoût de soi. Parfois avant d'être publié, ce dégoût de ce qu'on écrit, ça me travaillait beaucoup. Et puis après, une fois que j'ai été publié, ça me travaillait toujours, mais moins. Et puis il y avait une petite voix en arrière-plan qui disait t'inquiète pas, t'as l'impression que ce que t'as écrit c'est nul, mais demain ça ira mieux, demain tu le verras mieux. Enfin bon, donc ça a changé quelque chose, il y a eu un petit déclic, il y a eu cette autorisation d'écrire qui a fait que le mi-temps j'ai pas pu le gérer. C'est-à-dire qu'au début ça allait bien, en septembre tout allait bien, en octobre déjà je commençais à travailler moins comme prof, et en novembre-décembre je me suis vu quand même bâcler un petit peu mon travail de prof. Alors comme je connaissais mon métier après 25 ans de pratique, ça allait bien, hein. Les élèves s'en apercevaient pas, mais moi je m'apercevais que je travaillais sur mon acquis, quoi. Et je me suis dit, bon, là, peut-être qu'il faut que je fasse un choix, peut-être qu'il faut que je me mette en disponibilité pour quelques années, peut-être qu'il faut que... Alors, j'avais visé à peu près 5 ans de... Parce que j'avais toute une série de projets, alors que j'aurais fait, hein, même en travaillant à plein temps, je les aurais fait ces projets, mais j'aurais mis longtemps à les faire, j'aurais mis 25 ans à les faire, puis à mon âge, 25 ans, ça mène à quand même... ça mène loin, quoi. Et donc là, en 5 ans, j'ai pu faire énormément de projets, alors non seulement les projets que j'avais déjà, mais en plus, ceux que l'on m'a proposés en cours de route. Et ça, c'est aussi, c'est une merveille. C'est-à-dire qu'on me propose des choses que j'aurais jamais imaginé faire. Et grâce à cette autorisation que je me donne à moi-même d'écrire, j'arrive à le faire. Et ça, c'est un grand bonheur. Donc du coup, maintenant, bah, je travaille tous les jours, sauf le dimanche. Où, voilà, où je vais,
vous faites habituellement du jogging le long.
Du jogging, voilà, avec où on parle de toute autre chose que alors, voilà, ou avec des amis qui sont pas du tout dans le milieu littéraire, ça les intéresse moyennement. Le seul truc qui les intéresse, c'est quand je leur raconte les salons que j'ai pu faire à tel endroit, les choses rigolotes, etc. Là, ça les amuse beaucoup. Puis après, ils me parlent de tout à fait autre chose.
Mais justement, la vie d'écrivain, c'est bien. Par rapport à la vie de prof, du coup, votre quotidien est totalement différent.
Alors, en fait, c'est pas bien, c'est très bizarre parce que c'est pas très romantique, hein, la vie d'écrivain. C'est aux heures de bureau, on est devant une feuille, voilà, et on s'intéresse à des choses qui sont dans la tête, qu'on invente des trucs. Bon, c'est pas très reluisant vu de l'extérieur.
On est seul, alors qu'avant on est constamment avec des élèves.
Donc tout à fait, on est avec des élèves, on est avec des collègues, on est avec aussi, on est avec une matière. C'est-à-dire que quand moi donc j'étais prof de biologie, la biologie moderne existe et il y a des critères de vérité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, des choses qui sont c'est des sciences, quoi. Tandis que là, il faut que j'invente des trucs qui n'ont jamais été faits. Il faut qu'à un moment donné, je me dise, tiens, cette invention que j'ai, là, cette idée, eh ben, elle vaut le coup d'être écrite pour être lue par d'autres. Et des fois, on se sent pas très... Pas, voilà, quand je montre pour la première fois mon manuscrit à l'éditeur, alors l'éditeur, c'est celui qui s'occupe concrètement de moi dans une maison d'édition, des fois, je ne suis pas sûr que ce que j'ai écrit, ça puisse être lu par quelqu'un. Si l'éditeur, 3 jours après, me téléphone en disant « mais c'est vraiment nul ce que tu as fait », je le crois, parce que je ne suis pas très sûr. Mais heureusement, ce n'est pas encore arrivé. Bon, mais il y a toujours cette inquiétude, je me dis « oulala, là j'ai fait un truc, je sais pas ce qui m'a pris de faire ça ». Et puis, voilà, bah c'est le problème de l'invention. L'invention, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et donc, on est tout seul. C'est comme on marche un petit peu dans le vide. Et puis, heureusement, les éditeurs, ils servent à ça. Les éditeurs, ils servent de regard extérieur, de tiers. Et c'est super important, ça. Alors, les proches, c'est pas très bon pour ça. Les proches, ils sont super gentils, les proches, mais ils voient toujours des choses un peu trop dans le biographique. Ah tiens, t'as dit ça, mais l'autre jour tu m'as pas raconté ça comme ça. Ah ouais, mais bon, quand même. Donc voilà, c'est très très important cette histoire d'éditeur, où on a le regard d'un tiers qui est pas votre ami. Et qui va vous dire de façon un peu objective, un petit peu. Ben ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est... je comprends rien, ça c'est super, ça bon voilà, et après ça permet de faire évoluer le livre.
Cette nouvelle vie vous plaît ?
Ah oui, oui, elle me plaît. Alors, elle est pleine de. C'est très, en effet, c'est différent. C'est un petit peu plus solitaire, un petit peu moins social. J'aimais bien appartenir à une institution scolaire, avec des liens avec des collègues, des adolescents. C'était voilà, il se passait plein de choses. Mais, à un moment donné, il faut faire un choix. Puisque j'ai rêvé pendant 20 ans d'écrire et je n'y arrivais pas. Je me dépêche de rattraper le temps perdu. Voilà, on a soulevé le couvercle de la cocotte et tout sort.
Ouais. Ben, alors, on a de la chance que vous avez fait ce choix. Vous êtes effectivement une sorte de touche-à-tout qui approchait des tas de genres dans l'écriture, le roman, la fiction, l'essai. Et puis là, vous nous arrivez avec un livre qui s'appelle Dans l'attente de toi, qui est très original, très attachant. Il sort en librairie dans quelques jours et donc là, il est à Morges, totalement en avant-première. Donc on est très très peu à l'avoir, lu. Donc effectivement, ça sera une découverte pour nous ce matin. Alors, c'est un mélange de confession intime et puis de commentaires d'œuvres de peinture. En fait, c'est un livre, vous avez une intro, et c'est pour ça que je disais déclaration d'amour à une femme, parce que c'est ça, l'introduction, c'est ça. C'est vous regardez la femme aimée un matin et vous la trouvez d'une beauté, enfin vous trouvez cette vision d'une très grande beauté, vous la touchez et soudain vous ne trouvez pas les mots pour décrire ce que vous ressentez dans ce toucher. Et vous allez trouver une réponse dans l'univers de la peinture. Alors, comment il est né ce livre, Dans l'attente de toi, donc qui paraît aux éditions L'Iconoclaste, effectivement avec des textes, des images, des très belles reproductions de tableaux.
Alors ça fait partie des bonheurs de la commande ou de la contrainte. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai inventé comme ça ce livre en disant je vais faire ça. C'est une commande. Mais les commandes, c'est merveilleux parce que c'est comme écrire sous contrainte, c'est-à-dire que ça permet l'invention aussi. Alors la commande, elle était extrêmement simple. C'était l'éditrice de l'Iconoclaste, ayant lu ce que j'avais écrit dans un livre précédent qui s'appelait Son visage et le tien. J'avais écrit des choses sur la peinture. J'avais commenté Caravage comme étant peintre qui montre le surnaturel sans aucun effet. Fait surnaturel, uniquement montrant des corps. Bon, et ça l'avait intéressé. Elle m'a dit, moi j'aime beaucoup la peinture, mais je trouve que les beaux livres ou les textes sur la peinture souvent sont un peu assommants, ou alors trop érudits, ou alors, enfin bon. Et là, vous faites vivre un peu la peinture, et ça c'est bien, et vous voudriez pas faire un livre comme ça, où il y aurait des images et du texte, et puis les textes et images se répondraient, enfin voilà, pas un livre avec un texte illustratif de belles photos, non, où images et textes seraient ensemble. La commande, c'était ça. Et puis, par ailleurs, j'étais en train de réfléchir au toucher. Parce qu'en effet, le toucher, c'est un sens extrêmement important, fondamental. C'est presque notre fondement humain, presque. Mais c'est un sens dont on ne se rend pas bien compte et surtout qui est muet, qu'on ne sait pas dire. On sait très bien dire ce qu'on voit, ce qu'on entend. On sait dire aussi ce que l'on sent par le goût, par l'odorat. Bon, il y a des métiers qui développent un vocabulaire autour de ça. Hein, les œnologues ou les nez de parfumerie. Bon, mais pour le toucher, on ne sait pas trop quoi dire. Et c'est et le ce que vous citiez là, c'est tout à fait authentique. Et un jour, posant ma main sur sa peau, j'ai eu un sentiment de beauté, mais de beauté tactile, de beauté de toucher. Et je voulais dire quelque chose de bien là-dessus, mais comment on dit à quelqu'un qu'elle est belle à toucher ? C'est un peu maladroit qu'elle a un beau contact, ça veut dire c'est rien n'importe quoi. On peut très bien dire à une femme « tu es belle », on peut lui dire « tu as une belle voix », on peut lui dire « tu sens bon ». Allez donc dire tu es belle à toucher, ça. Voilà. Donc du coup, avec cette espèce d'impossibilité, mais de sentiment très fort de cette beauté, je me dis comment je fais. Donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus, à écrire des petits bouts de trucs, mais tout en me disant que jamais aucun éditeur ne voudra de ça. Et puis voilà la commande, et il y a une sorte d'illumination, une sorte d'arc électrique qui se fait dans ma cervelle. Je me suis dit pour raconter le toucher, la beauté du toucher, je vais utiliser de la peinture. Et parce que dans la peinture, il y a quelque chose, alors là c'était un peu une hypothèse aventureuse, il y a quelque chose qui est de l'ordre du toucher. La peinture se voit, on est d'accord, mais il y a quelque chose, une sorte d'hallucination du toucher. Alors, le toucher, soit sous forme de matière picturale, d'acte pictural, soit le toucher sous forme de scène représentée, soit le toucher dans l'aventure personnelle d'un peintre et de son modèle. Et aussitôt que j'ai eu cette idée-là, il y a toute une série de tableaux qui me sont venus à l'idée. Je me dis, ah bah oui, il y avait ça, et ça, ça irait bien, ça, ça irait bien, ça, ça irait bien, ça, ça irait bien. Où finalement, il y avait le toucher qui était mis en scène. Donc là, la peinture va m'aider à mettre en scène, à raconter quelque chose qui, profondément, est très, très difficile à raconter, même si c'est un sentiment quotidien. Parce que c'est un sentiment le plus quotidien possible. Un sentiment que j'éprouve chaque jour, mais je ne sais pas le dire. Finalement, la littérature, ça sert à ça. Ça sert à dire ce qu'on ne sait pas dire. Parce que si il s'agissait de dire ce qu'on sait déjà, ça serait juste un travail. Ce serait un peu rasoir. Moi, je faisais ça quand je faisais des cours de biologie. Je savais des trucs, et après, je racontais ces choses-là. Bon, ok, ouais, mais ça n'a rien à voir avec la littérature. C'est une transmission de savoir. La littérature, c'est inventer la façon de dire quelque chose que l'on ressent profondément.
Alors, dans ce livre, en fait, j'en profite pour... Est-ce qu'on pourrait juste apporter un petit peu d'eau à notre ami écrivain que je suis en train de dessécher Madame, vous pourriez juste nous... Merci. Voilà. Voilà. On manque à nous notre sens de l'accueil suisse légendaire. Il faut que l'hôtellerie n'ait plus ce qu'elle était. Voilà. Voilà. Alors, dans ce livre, dans le fond, comment vous avez choisi les toiles et les peintres qui défilent au fil des pages, parce que on a un album, ça passe de Pierre Bonnard, on a du Francis Bacon, du Titien, du Rembrandt, Fragonard, Picasso, Poussin, Georges de la Tour. C'est votre album personnel. Alors ce sont tous des très très beaux tableaux qui, alors ont déjà en commun de représenter des corps de femmes ou en tout cas des corps. Voilà. C'est quoi ce choix?
Oui, alors, non, c'est un choix, un peu intuitif. Donc bon, j'aime beaucoup la peinture depuis que je suis gamin. J'ai un lien fort avec la peinture. Là aussi, j'ai pas fait d'histoire de l'art, mais mes parents avaient acheté beaucoup de, pour quand ils se sont installés, ils meublaient leur bibliothèque avec des beaux livres et ils achetaient des livres, des éditions Rencontres, je me souviens d'une histoire universelle de la peinture, en 25 volumes ou 30 volumes, je sais plus, et que j'ai regardé pendant des années. C'est-à-dire que je passais de Pif Gadget à l'histoire de la peinture, et pour moi, il n'y a pas trop de différence. Il n'y avait pas de différence vis-à-vis de la peinture. Pour moi, c'était pas la haute culture, et puis la BD, c'était la basse culture. Pour moi, c'était toutes des images qui racontaient des histoires. Et j'ai gardé ce lien avec la peinture. Donc j'ai vu énormément d'expositions, de tableaux. J'ai lu des tas de bouquins, etc. Mais parce que ça, voilà, ça m'intéresse, ça me parle beaucoup. Quand j'ai pensé à cette histoire de toucher, c'est comme si je feuilletais mon musée imaginaire. Et puis je me dis, ah bah tiens, celui-là ça irait bien.
Sont venus en tête des tas de tableaux, plein de tableaux, vous avez aimé.
Voilà, que j'ai aimé, qui me paraissait aller. Alors après, une fois que j'en ai choisi un certain nombre, alors il y en a que je suis allé revoir, ce qui était possible de revoir. Les revues, puis après en cherchant un peu, j'en ai trouvé d'autres qui correspondaient à peu près. Enfin voilà, c'est à la fois par intuition et par tâtonnement, j'ai sélectionné toute une série de tableaux qui représentent des figures humaines où il y a quelque chose de l'ordre du toucher. Alors par exemple, hier, on a une rencontre et l'animateur me dit, bah, par exemple, vous n'avez pas parlé de Egon Schiele. Oui, il y a des corps, oui, il y a des corps nus, mais on n'est pas là dans du toucher heureux. Les tableaux de Schiele sont superbes, extraordinaires, puissants, profonds, enfin tout ce qu'on veut. mais les toucher, c'est pas la première idée qu'on ait. C'est
voilà, souvent même quelque chose d'assez morbide.
D'assez terrifiant, voilà, mais c'est quelque chose de la condition humaine, terrible. Donc c'était pas dans le, ils sont beaux, mais c'est pas le cadre, c'est pas dans mon cadre. Mon cadre, c'est quand même le toucher heureux, même si il y a quelques peintres brutaux là dans la sélection, mais il y a quelque chose d'un toucher heureux, d'un toucher qui donne un sentiment de beauté et puis de lien.
Vous êtes allé les revoir, comment vous avez travaillé finalement? Est-ce que vous êtes allé vous replanter devant ces tableaux, ceux qui sont visibles dans des musées, ou vous avez simplement replongé dans votre encyclopédie rencontre?
Donc non, c'est l'essentiel, je suis allé les revoir, oui. Alors ceux qui sont visibles, hein, par le Bacon dont je parle, il est dans une collection privée, c'est pas possible, mais je l'avais vu. En fait, il avait été prêté il y a 20 ans dans une grande expo, c'était à Beaubourg, je crois, ou au Grand Palais, je ne sais plus, au Grand Palais peut-être. Donc et c'est là que je l'avais vu la première fois, et il m'avait frappé. C'est un tableau qui m'avait frappé il y a 20 ans, et j'avais toujours gardé dans l'idée qu'un jour, il faudrait que je fasse quelque chose sur ce tableau. Parce que ce tableau de Bacon, il m'avait révélé quelque chose de Bacon, il m'avait révélé l'humour et la tendresse de Bacon. Alors là aussi, humour et tendresse chez Bacon, c'est pas
c'est
le premier truc auquel on pense.
Voilà,
on pense à de la brutalité, etc.
On le place généralement dans la famille des Schiller, justement.
Voilà, tout à fait. Et dans celui-là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de magnifique, parce que c'est un portrait de l'homme avec qui il a partagé sa vie pendant 10 ans, avec qui ils avaient des rapports un peu rageux, qui allaient du sadisme à la tendresse. Enfin, c'était très compliqué. Et il le représente lui, il représente une sorte de personnage. Alors, moi, ce que je voyais, c'est presque un personnage à la Sempé. On voit un personnage qui fait de la bicyclette sur un fil. Et ce personnage, il a l'air un peu flottant, un peu. J'y ai vu quelque chose d'un humour et d'une tendresse vis-à-vis de l'homme représenté. Et ça m'avait beaucoup travaillé. Je veux dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette idée-là, ce peintre si puissant, si brutal, comment peut-il avoir humour et tendresse? Alors après, quand on l'entend parler, Bacon, son humour est totalement visible. Il parle de façon extraordinaire, et la tendresse, on la voit dans des tas de photos, alors que j'ai pu retrouver, où on le voit avec cet homme-là, avec l'homme qu'il avait peint et qui a été son amant pendant une dizaine d'années. Et il y a des tas de photos extraordinaires de eux deux ensemble. Alors donc finalement, après avoir creusé un petit peu, je me suis dit que mon intuition devant le tableau, elle n'était pas si fausse. Il y a quelque chose dans Bacon, au-delà de la violence, il y a quelque chose d'une humanité fragile et tendre. Et ça m'intéressait beaucoup, ça me touchait beaucoup. Et j'ai essayé de raconter un petit peu ce rapport entre le peintre qui prend soin de son modèle. Et ça faisait un épisode finalement de ce livre où celui qui fait le portrait va prendre soin de celui dont il donne le portrait.
Et c'est la démarche que vous avez eu envie de faire pour chacun des, je sais pas, il va y avoir une vingtaine de tableaux où il y a votre regard personnel dessus, et puis ensuite vous essayez de nous emmener dans les coulisses du tableau, de la relation entre le peintre et son modèle. Finalement, c'était ça le travail, tableau après tableau.
Voilà, c'était à chaque fois comme si chaque tableau était un prétexte à raconter quelque chose, à donner un récit de ce qui se passe quand le peintre va regarder son modèle et le peindre. Et à chaque fois, c'est une façon de me mettre en scène, moi, regardant mon modèle et le peignant. Finalement, ça me donne presque... Je fais une sorte de digression un peu pudique, on va dire, plutôt que de trop représenter mon modèle, parce que c'est quand même pas facile. Je m'empare d'une image qui a déjà été faite, et j'essaye de trouver dedans quelque chose qui raconte ma propre histoire.
Ouais. À chaque fois, c'est une manière de s'adresser à la femme aimée du début.
Bien sûr, donc dans ce livre, il y a un narrateur qui dit « je », et il y a un « tu » à qui il s'adresse, qui est une femme. Et en fait, tout le livre, c'est ce jeu qui parle à ce tu, en utilisant tous les moyens possibles, soit en racontant directement des choses entre les deux, soit en prenant le biais comme ça d'un peintre, d'une histoire, d'un tableau, d'une image. Mais ça revient toujours au même.
C'est d'ailleurs un livre où il y a une sorte de climat très amoureux, dans le fond. C'est vrai que cette anecdote savoureuse là, du pizzaïolo, vous racontez à un moment donné, vous êtes dans une pizzeria et le pizzaïolo tout à coup se met à regarder votre compagne.
Parce que c'est en Italie, voilà.
C'est ça. Tant mieux, c'est tous les Italiens comme ça. faudra faire le test dans certaines pizzerias. Et il se met il regarde votre compagne et il se met à toucher sa patte en la regardant. Et vous, dans le fond, vous êtes fasciné devant ce spectacle. Pour vous, c'est une sorte de démonstration de sensualité et de toucher.
Mais un petit peu quand même stressé, c'est-à-dire que, vous savez, les pizzaïolos, quand ils étalent la pâte, ils font des prodiges d'acrobatie, tac 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 comme ça, et puis ils la reprennent, ils la retournent, etc. Mais ils regardent ma femme là en faisant ça. Mais bon, tout ça dans un grand silence. Alors c'est peut-être moi qui projette, hein. Voilà. Mais après, en l'ayant lu, elle m'a dit: ah ouais, je m'en souviens.
Et elle avait remarqué ?
Oui, tout à fait. Ça la faisait rire. Moi aussi.
La pizza n'en était sans doute que meilleure. Qu'est-ce qu'elle a pensé d'ailleurs, la destinatrice du livre ? Enfin, est-ce qu'elle a aimé ce livre ? Est-ce que vous lui avez fait lire au fur et à mesure ou...
Ah non, alors au fur et à mesure, surtout pas. Non, ça c'est la catastrophe. Quand je fais un livre... J'essaye de faire tout ce que je peux tout seul. C'est-à-dire que j'essaye d'aller au bout de mon idée, parce que si en cours de route quelqu'un me dit quelque chose, ça risque de...
Ça fait douter,
ça risque de tout dégonfler mon idée, quoi. Donc je préfère le faire totalement. Après, je montre, alors plutôt un éditeur, et après je modifie en fonction du regard. Bon, en plus là. Franchement, j'étais pas sûr qu'elle me le jette pas la figure. Est-ce que c'est en plus non, j'avais même pas dit qu'il était question de. Elle croyait que je faisais un livre sur la peinture.
C'est le cas quand même.
Sur le toucher, la peinture, voilà. Et
comment une femme pourrait prendre mal un livre amoureux ?
Voilà, mais parce que elle aurait pu dire: oh là là, mais quand même t'exagères, tu me montres toute nue. Enfin bon, voilà, c'est ça. C'est pas rationnel. C'est pas rationnel. On est toujours un peu stressé.
Il n'y a pas de photo. Hein.
Voilà. Non, mais c'est pas très rationnel parce que on sait jamais trop si ça peut être bien pris, mal pris, si ça va cesser. Voilà. C'est comme si on offre des fleurs. Ah bon, c'est des roses roses. Je préfère les rouges. Vous voyez,
c'est... Mais dites pas qu'on vous a déjà jeté des fleurs à la figure.
Non, jamais. Mais il y a toujours l'inquiétude, en fait. Ouais. En fait, quand on se lance comme ça dans quelque chose qui est intime et qui implique. Il y a toujours le risque que ça tombe à côté, et on ne sait jamais. Et puis après, en fait, bon,
ça
tombe pas à côté. Et au final, ça a bien plu. Voilà. Bon, après, il y a aussi le problème, c'est que quand il y a... ce livre, c'est pas une lettre précise à quelqu'un de précis. C'est un livre de littérature où, finalement, le jeu, il peut être... pris en charge par tout le monde, et le tu peut être pris en charge par tout le monde. Donc, il y a des choses qui sont tout à fait authentiques, partageables avec une autre personne. Il y a des choses qui sont un petit peu mises en place de façon à ce que ça fasse un récit qui puisse être lu par tout le monde. L'intime total, dans une pure vérité, ça n'intéresse que les personnes qui se l'échangent. C'est pas universel. Il y a nécessité de d'écrire de façon universelle pour que ça soit un vrai livre. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des moments où en effet ça touchait, puis des moments où on disait: ah bon, oui, là je perds un peu le fil, enfin voilà, donc mais c'est toujours un problème. C'est souvent, par exemple, dans un livre, quand on voit qu'il est traité de quelque chose que l'on connaît, on reconnaît pas toujours, parce que c'est toujours un peu. Voilà, par exemple, j'ai un ami qui a écrit et qui a écrit, c'est un ami d'enfance qui a écrit des trucs et il met en scène des choses en fait qu'on a vécues quand on était ado. Je reconnais pas tout. Et il y a des trucs qu'il m'a raconté différemment que quand il les écrit, et c'est très très étrange parce qu'il y a cette espèce d'inquiétante étrangeté comme ça, de je reconnais mais je reconnais pas tout à fait, bah parce que lui il utilise tout ça pour dire quelque chose alors que ces événements au moment où ils étaient vécus ils c'était juste des événements qui n'avaient pas de sens particulier, mais quand on voit ces éléments là qu'on a partagés et qui sont remis en scène dans un grand ensemble, on ne les reconnaît pas toujours tout à fait. Et c'est un peu troublant, c'est étrange.
Les reproductions de tableaux, de dessins que vous utilisez ne vont pas au-delà, il me semble, de Picasso, d'un point de vue temporel. Qu'est-ce que vous pensez des représentations du corps de la femme, parce qu'il s'agit de ça. Aujourd'hui, finalement, il n'y avait pas de représentation du corps de la femme assez amoureux ou qui entrait dans votre cadre. Voilà, il a fallu finalement que vous plongiez dans les siècles passés.
Alors, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est des tableaux classiques connus. Moi, ça me plaisait bien que ça soit des tableaux classiques connus qui font partie de la culture commune, qui font partie du domaine public, qui font partie de ce que chacun connaît. C'est-à-dire que donc chacun peut se plonger dedans. C'est-à-dire que chacun, Rembrandt est ultra connu, donc le lecteur l'a déjà en tête. Et moi, je raconte des trucs là-dessus, et le lecteur peut plonger avec moi dans cette chose connue. Si j'apportais un peintre totalement inconnu, ça pourrait avoir ses vertus, hein, ça peut être intéressant. Mais après, il n'y a pas ce partage, cette espèce de plongée dans cette mémoire commune. Moi, ça me plaisait bien. Et puis, après, dans la peinture contemporaine, des peintres de la figure humaine, de la forme humaine, où il est question de toucher. Alors, je réfléchis un petit peu, je vois pas trop. Il y a des tas de peintres qui sont très très bien, mais bon, voilà, il y a rien qui m'est venu à l'idée qui traite de ce point-là précis, c'est-à-dire mettre en scène la figure humaine d'une façon tactile. Alors, soit c'est pas de la figure humaine, soit c'est pas très tactile, soit enfin voilà, il y a pas. Mais bon, c'est parce que mon ignorance est grande, hein, donc je pense que un critique d'art contemporain pourrait peut-être m'éclairer là-dessus.
Bon, si on sort du domaine de la peinture, justement, ce qui frappe quand même, c'est que les représentations des corps des femmes, là, sont évidemment assez charnelles. Enfin, on est très, très loin des représentations du corps de la femme dont on est entre aujourd'hui. Je sais pas, mode, publicité, etc., etc. Vous qui, justement, dans le fond, montrez que vous aimez le corps de la femme et le corps un peu réel, est-ce que ça vous énerve, ça vous choque, ça vous attriste que finalement on représente aujourd'hui le corps de la femme d'une manière totalement idéalisée,
oui, tout à
désincarnée
fait, ouais. Alors ça, c'est... à un moment donné, j'avais brodé un peu là-dessus, puis j'avais enlevé parce que ça faisait une digression qui était trop prise de position, on va dire. C'est au Louvre. Il y a le Bethsabée au bain de Rembrandt, où on voit Bethsabée assise, toute nue, et elle est assez mal foutue, à la fois physiquement, hein, comme on dit vulgairement des femmes quand on est un garçon, et même picturalement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un beau corps, elle est pleine de défauts, mais elle est d'une présence et d'une sensualité extraordinaire, on a envie de la toucher. Et à côté, dans la même salle, il y a un tableau d'un peintre dont j'oublie le nom, un peintre hollandais à peu près de la même époque que Rembrandt, qui avait un succès fou, où on voit le même sujet, Bethsabée au bain, c'est-à-dire elle reçoit une lettre de David qui la convoque parce qu'il l'a vue se baigner et il est fou de désir pour elle, il veut coucher avec elle. Bon. Et elle est peinte comme une photo de charme. C'est-à-dire, elle a des seins parfaits, elle a une petite chemise entrouverte où on voit juste un peu, mais pas trop. Elle a l'air un petit peu, on sent que, elle a été contaminée par le désir de l'homme. Elle va s'y prêter, elle a une peau laiteuse. Et en fait, tout est parfait, mais c'est assez ennuyeux. C'est-à-dire que on est dans une sorte de représentation idéalisée. À la limite, j'allais presque dire, c'est un tableau photoshopé. C'est-à-dire que tout a été rendu parfait, les yeux, la bouche, la peau, les seins, etc. Mais bon, bah voilà quoi. C'est une image, c'est une idée. Ça a la bêtise de la photo de charme. Alors que le réel, tel que le représentait Rembrandt avec beaucoup de travail et d'effort, quelque chose du réel, quelque chose de la présence réelle du réel, ça c'est érotique, ça c'est attirant, ça c'est puissant. Et c'est vrai que, bon, de l'image de femme, voilà, il y en a partout, mais totalement transformé, alors soit par des logiciels de retouche photo, soit, alors ça c'est totalement fascinant, par toutes sortes de chirurgies esthétiques ou de façons de modeler le corps, qui donnent des corps qui ressemblent à... je sais pas, à des poupées en fait. Et c'est très très étrange parce que c'est censé être érotique ou beau. Et alors, mais c'est peut-être parce que je suis un vieux con, hein, mais pour moi, c'est du caoutchouc, ça a rien à voir avec le réel, c'est même assez déprimant en fait. Bon voilà, donc j'aime le réel et le réel, par définition, est imparfait, et c'est en ça qu'il est bon, le réel, parce qu'il se détache de cette espèce de perfection de l'idée qui est totalement évanescente, en fait.
Non, c'est parfait, vous êtes très rassurant. Je suis rassurée que vous soyez déprimé. Continuez à déprimer. Ça. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête quelques minutes sur quelque chose de, par contre, un sujet un peu moins rassurant, et puis qu'on s'arrête sur cet autre livre que vous avez sorti il y a quelques mois, c'est les Mémoires dangereuses, qui est un livre de dialogue avec l'historien Benjamin Stora. Alors, les Mémoires dangereuses, en fait, vous confrontez votre regard, vous et Benjamin Stora, sur ce qui reste du passé colonial de la France, et puis vous plongez dans les racines de la pensée FN. Alors, du coup, depuis que ce livre est sorti depuis quelques mois, évidemment qu'on vous invite partout pour parler de ce qui agite la France et l'Europe aujourd'hui, les troubles, les questionnements liés à l'immigration, le terrorisme, l'extrémisme islamiste, etc. Et puis, alors, pourquoi faire ce dialogue à Benjamin Stora, encore une fois, certes, vous êtes un touche-à-tout, mais là, s'attaquer dans le fond à l'héritage colonialiste français, et puis du coup, toucher l'islamophobie, etc. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a pris ?
Alors, en fait,
c'est quand même plus sympa de parler de peinture.
Tout à fait. Absolument.
Femme,
hein. Oui. C'est... D'ailleurs, j'avais fait une émission récemment à France Inter où on parlait justement du FN, de l'islam, etc. Et puis après, ils faisaient un peu la promo pour ça en disant, ben voilà, ouf, ça fait un peu de beauté dans ce monde violent. Ça fait du bien, ça peut pas faire de mal. Le sujet de l'art français de la guerre, mon premier roman, c'était ça. C'était les guerres coloniales et le souvenir colonial, le traumatisme colonial et son influence sur la France contemporaine. La France contemporaine est très agitée, très violente sur ce sujet-là. Donc j'avais écrit un roman là-dessus et puis j'en avais déduit un certain nombre d'idées sur ce que c'était que le Front National. Et un jour je rencontre Benjamin Stora par le biais d'éditions Albin Michel, on déjeune ensemble, puis on cause la patate et patata et on se retrouve qu'on a des idées semblables. L'éditrice a l'idée, faisons un livre autour de ça. Donc on fait un livre, alors qu'on le fait par entretien parce que on voulait que ça soit un livre un peu rapide, on voulait que ça soit pas un livre, pas un manuel, pas une recherche, mais c'était confronter un
vivant,
peu nos, voilà, que ce soit vivant, puis c'est simplement nos points de vue. Et donc, on a lancé cette idée que le Front National, alors non pas dans son programme, mais dans son imaginaire, dans comment il conçoit finalement la société, eh bien, ce Front National a des racines qui ne sont pas fascistes et qui ne sont pas nazis, comme la gauche classique veut le laisser entendre pour lutter contre le Front National, mais coloniale, française et coloniale. Parce que quand on regarde les départements d'Algérie, comment ils étaient gérés dans la pratique ? Dans la théorie, c'était des départements qui étaient
tout à fait équivalent au département métropolitain, avec les mêmes structures de pouvoir et institutionnelles. Mais dans la pratique, eh bien, c'était une gestion non républicaine, non démocratique, avec un rapport aux institutions très malsain, avec un rejet des institutions, avec des rapports de force, avec un rôle des notables et avec l'exclusion d'une partie de la population. Quand on regarde précisément comment cette colonie algérienne, ces départements d'Algérie étaient gérés, on se rend compte que ça ressemble à un programme FN réalisé. Et ce qui est terrible, c'est que c'est pas uniquement au détriment des Arabes, c'est au détriment de tous, c'est-à-dire au détriment de la République, au détriment de la démocratie, au détriment de absolument tout le monde, parce que le Front National n'arrête pas d'attaquer la République, d'attaquer De Gaulle. Alors que finalement De Gaulle et le gaullisme est quand même le fondement de la France d'après-guerre. Alors après on pense ce qu'on veut de Gaulle, il incarne quand même quelque chose, une sorte de d'État républicain légèrement abstrait mais qui fonctionne de façon efficace et normalement en dehors des intérêts privés. Mais il y a une attaque permanente de la part du FN de tous ces modèles-là et de la démocratie. Ils remplacent finalement la démocratie par le peuple. Il y a une sorte de délire sur le peuple qui s'exprime, et puis il y a quelques hommes qui comprennent le peuple et qui parlent pour le peuple. Alors c'est un peu mystérieux hein, comment le peuple arrive à parler à ses hommes et comment ils arrivent à l'entendre. Voilà, c'est du fantasme. Mais dans l'Algérie coloniale, il y avait ça. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple pied noir, dans son malheur, puisqu'il a quand même été chassé, ce peuple pied noir a été incapable d'organiser un projet politique cohérent. Et l'OAS, cette émanation du peuple pied noir, qui voulait garder l'Algérie française, a été incapable de tout projet politique. Leur seul projet, ça a été la violence, mais la violence brute, c'est-à-dire tuer les Arabes dans la rue. Ça s'est complètement décomposé, ça a disparu, etc. Et dans le FN, il y a ça, ce rapport à la force, cette négation du politique, etc., etc. Bon, et alors pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ce bouquin? C'est qu'on voulait lancer une idée. Il faut arrêter de faire semblant de croire que le Front National c'est des nazis et que c'est pas bien et que c'est moral de voter contre eux. C'est pas le problème. C'est politique, c'est historique, c'est un choix politique que de voter contre eux ou de voter pour eux. Mais il faut arrêter de mettre ça dans le domaine moral. Ce sont des choix politiques qu'il faut faire. Et on voulait lancer cette idée-là. Alors ce qui est étrange, c'est qu'on a été invité un peu partout. Et dans toutes les rencontres, on parlait de tout, sauf du livre. C'est-à-dire que ce qui intéressait les gens, c'était de parler de l'islam, du djihadisme. Même un jour, à Montpellier, quelqu'un qui finit par me dire « Oui, mais ouais, il faut quand même voir que c'est quand même plus large que ça, et que la Syrie, l'Irak, vous pensez quoi de l'Irak ?» Je regarde comme ça, je dis, vous savez, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un livre où il était question de la guerre d'Algérie. Alors c'est ça un peu mon cœur de compétence. Alors, je veux bien vous répondre, mais ça sera une réponse d'un citoyen lambda, pas d'un chercheur spécialiste de tout ça. Voilà. Mais ça veut dire aussi qu'en France, dans la France contemporaine, il y a un désir de parler de tout ça, d'en faire quelque chose, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. C'est la grande panique autour de l'histoire, des étrangers, de l'islam, etc. Bon, il s'est trouvé aussi, moi j'avais fait j'avais écrit chez Albin Michel un éloge de l'islam. Parce que moi j'avais écrit un livre de spiritualité, puis après j'avais fait une spiritualité chrétienne, et j'avais fait à un moment donné avec une conférence avec une musulmane où chacun faisait l'éloge de l'autre. Elle faisait l'éloge du christianisme, moi je faisais l'éloge de l'islam. Parce que c'est quelque chose qui, dans ma vie, ça a été, quand j'avais 20 ans, j'ai découvert l'islam avant de découvrir le christianisme, j'ai découvert à l'étranger, comme ça, je l'ai vu faire avant que l'islamisme existe en fait. Et ça m'avait profondément touché. Et j'ai souvenir de ça. Je sais que l'islam est malade, mais il y a quelque chose dans l'islam qui a eu été grand et humain, etc. Et je me dis, bon, voilà, il est nécessaire de penser dans la France contemporaine qu'il y a de la place pour un islam humain. Et voilà. C'est peut-être une utopie, mais s'il n'y a pas d'utopie, c'est la guerre de tous contre tous. Donc vivez les utopies.
Justement, parce que vous dites, on a un problème de mémoire, on oublie l'histoire, on a plus de mémoire en France, en Europe, et une grande partie de tous nos problèmes géopolitiques, socioculturels actuels viennent de ça. C'est-à-dire ?
Alors, en fait, je me suis rendu compte un peu par hasard. Moi, j'ai toujours eu un goût pour l'histoire. Voilà, ça m'a toujours intéressé. Quand j'étais petit, déjà, ça me passionnait. Mes parents pensaient que j'allais faire historien, puis finalement, j'ai fait des sciences. Bon. Et en écrivant L'art français de la guerre, je me suis plongé dans l'histoire des guerres coloniales, tout ça. Puis ça. Mais je ne suis pas allé dans des bibliothèques mystérieuses. Hein. J'ai pris ce qu'on trouvait à la bibliothèque municipale, à Lyon, ce que j'ai trouvé sur internet, ce que j'ai trouvé dans des vieux bouquins que je trouvais chez les soldeurs de livres, voilà. Donc vraiment c'était tout ce qui était en accès libre, puis j'ai fait ce bouquin, et puis après il y a plein de copains de mon âge qui me disaient oh, mais ça alors, mais comment tu sais ça? Et je me suis rendu compte de l'ignorance abyssale des gens de ma génération, alors pour pas parler de la génération d'après, hein, mais déjà des gens de ma génération, sur ces sujets-là, ils savaient bien qu'il y avait une guerre d'Algérie qui avait été violente. Ah, ça, ils savaient. Mais à part ça, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui s'est passé, quels étaient les protagonistes, ils ne savaient pas du tout et ça ne les intéressait pas plus que ça. Alors, tout le monde se gargarise du oui, le tabou sur la guerre. Il n'y a pas de tabou. Dès les années 50, on savait tout. C'était tout dans la presse. La torture pendant la guerre d'Algérie. Comment on en est venu à penser que ce soit un tabou? Puisque en 1955, déjà Mauriac en parlait dans la presse, dans de la presse de grande diffusion. Voilà, il y a quelque chose d'étrange dans la mémoire française. Il y a des choses dont on ne se souvient pas parce qu'on ne veut pas s'en souvenir. Et bien parce que je crois, alors mon hypothèse, c'est qu'on ne sait pas comment le raconter. Parce que c'est tellement un ensemble de trahisons et de faux semblants et de voilà, bon, qu'on ne sait pas comment faire. Et d'où l'importance du roman. Le roman, ça sert à raconter les choses. Bon, et il y a toute cette part de notre histoire qui nous reste mystérieuse, mais qui continue à agir dans notre présent. Il est important donc qu'on sache vraiment de quoi il s'agit de tout ça, plutôt que d'en avoir une vision très 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 simplifiée qui va mener à des actions la plupart du temps brutales. Donc c'est très important d'essayer de reconquérir cette histoire et c'est super difficile. Et bon, Benjamin Stora, lui, il partage la même diagnostic. Il trouve voilà, il y a peu de travail, de travaux véritablement profonds, sérieux sur ces sujets-là.
Ouais. Justement, vous qui connaissez l'histoire française de manière très poussée, vous qui connaissez l'islam de l'intérieur, quel regard vous portez sur ce qui se passe actuellement en France et en Europe? Le terrorisme, la burqa, le burkini, on est tous maintenant noyés dans les mêmes débats, dans les mêmes psychoses, psychodrames. Vous voyez ça comment? Vous êtes inquiet?
Oui, parce que c'est... En plus, quand je vois, je viens de lire hier soir tout ce que disaient les candidats à la primaire de la droite, chacun fait son petit... donne son petit détail pour donner des gages, en fait, à l'électorat inquiet. Hein, pour dire, voilà, non, on va refuser l'étude de l'arabe au lycée, par exemple. Ouais. Vous savez, ça serait peut-être mieux qu'ils l'apprennent au lycée plutôt qu'à la mosquée. Hein. Ça permettra d'apprendre un arabe culturel et littéraire plutôt qu'un arabe dogmatique. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Je suis inquiet parce qu'on est dans des tensions à long terme. On ne va pas s'en sortir comme ça. Mais le gros problème, c'est qu'on est en France, on est dans une société qui est pleine de failles, pleine de fissures, une société qui est devenue inégalitaire alors que nous avions la passion de l'égalité. C'est comme si on se préparait à la guerre civile. Il faut peut-être arrêter ça. Et peut-être que d'une façon. Alors, Il faut être ferme avec les délinquants, les terroristes, on est bien d'accord. Mais après, il faut peut-être arriver à dire un jour, il y a 5 millions de nos concitoyens qui sont musulmans, et alors, l'islam fait partie de la culture française. Point. Voilà. Peut-être que, parce que maintenant, ça en fait partie, comme le judaïsme fait partie de la culture française, comme le protestantisme fait partie de la culture française. Siècle après siècle, on rajoute des couches à la culture française. Bon, eh bien, que le 21e siècle rajoute une couche de plus. Et ça fera du bien, je pense.
Donc burqa, burkini, pour vous, c'est vraiment un problème. C'est
Je pense qu'on peut pas, le traiter ce problème frontalement. C'est-à-dire que c'est Sfar qui est là, qui a dit un jour,
dessinateur,
il a dit un jour cette petite phrase qui me paraît très profonde. Si les musulmans ou musulmanes enlèveront leur voile le jour où elles se sentiront bien, ici en France. Bon, ben oui, je pense que si on interdit, on crée une tension, on crée, voilà. Bon, peut-être qu'on peut foutre la paix aux gens qui s'habillent comme ils veulent, qui mangent ce qu'ils veulent. Ça lâchera un petit peu de tension. Par contre, que la mixité soit un principe de la République indiscutable, ça c'est clair.
Je vous propose d'ouvrir le débat avec la salle. Il y a des micros qui vont circuler. Quelques minutes, Alexis Yeni est à vous pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez lui poser sur tous les sujets possibles. Et puis, comme on a vu, il en maîtrise pas mal avant qu'on le retrouve pour évidemment des dédicaces. Qui se lance? Levez juste la main comme ça. Le micro vous arrive. Voilà. Mesdames, messieurs. On a vu, il est plutôt ouvert, agréable. Monsieur. Oui, il est ouvert, vous pouvez parler directement dedans.
Il est déjà allumé. Ah, okay. Alors, vous nous avez dit notamment, d'ailleurs merci de vos exposés super intéressants, on a appris beaucoup de choses et vous les avez dites d'une façon absolument convaincante, notamment sur l'islam. Vous nous avez dit que vous inventiez, quand vous écrivez un ouvrage, vous inventiez, d'autres, c'est plus ou moins sur commande, que vous adaptez. Alors, quelle est votre technique de travail? Est-ce que vous entreprenez un ouvrage que vous menez jusqu'au bout en travaillant tous les jours, ou puisque vous travaillez tous les jours, est-ce que vous avez plusieurs ouvrages en chantier? Est-ce que vous travaillez en parallèle ou non?
Alors, j'ai la plupart du temps plusieurs ouvrages parallèlement en chantier, mais de nature différente. C'est-à-dire que, celui-là, je l'ai fait en parallèle avec un autre qui n'est pas fini, qui est un roman, mais un vrai roman inventé, un roman historique que je suis en train de faire, mais très, très ancien dans l'histoire. Le roman me permet d'inventer des choses et de raconter des choses avec des personnages, donc je réfléchis, je mets en scène, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai marre d'inventer des trucs, je me dis mais ça, franchement j'invente un truc qui n'existe même pas, c'est nul. Donc je passe à l'autre, et celui-là, il était sur des choses très précises, puisque il y avait une personne, il y avait des tableaux, et il y avait ce que je voulais dire sur le toucher. Et donc il y avait une écriture qui était totalement différente, qui n'était pas du tout de la mise en scène de personnes, qui était une sorte d'écriture un peu par jaillissement, par surgissement, comme ça. J'avais des sortes de grandes flambées poétiques que je notais. Et puis, au bout de 15 jours de travail là-dessus, ça s'épuisait un peu. Je me disais, mais je raconte des trucs, là, ça y est. Si je mettais en scène. Et je reviens à mon roman. Et en fait, je fais comme ça des allers-retours. Et disons qu'avoir quelque chose qui est d'ordre de l'essai de type poétique, et un roman romanesque, ensemble, ça permet, chacun va reposer de l'autre. Et alors, quand je travaillais sur la Français de la guerre, en fait, il y a deux types de chapitres. Il y a les chapitres qui sont du présent,
qui était de l'ordre du commentaire du présent et qui était d'une une écriture un peu complexe, un peu poétique, jaillissante, tourbillonnante, etc. Et puis il y avait les parties romans qui racontaient la vie d'un militaire de 1942 et 1962, et là qui était du pur roman, qui était de la mise en scène, et j'oscillais entre les deux types de chapitres en fonction de l'épuisement de mon désir sur un type d'écriture. Donc j'ai l'impression que ça me fait du bien, parce que si je faisais qu'un seul livre, je connaîtrais cet épuisement, mais après, je me retrouverais sans rien. Il faudrait que j'attende que le désir repousse. Et là, comme c'est deux désirs différents, ça me permet de faire deux choses à la fois, qui me comblent toutes les deux, qui sont deux mondes totalement différents, et voilà, ça me fait le plus grand bien de travailler comme ça.
Merci. Une autre question, les dames, messieurs? Voilà, tout devant, merci.
Alors, vous dites que l'art vous inspire, les corps, le toucher vous inspire. Quel est votre environnement de travail? Vous travaillez devant le lac, devant une forêt, vous écrivez à la main, à l'ordinateur. Comment ça se passe?
Alors, en fait, je travaille dans les cafés. Donc à Lyon, j'ai trouvé un certain nombre de cafés. Vous savez, les cafés un peu, maintenant ça se fait bien, les cafés où il y a un peu bobo, comme on dit, où il y a plein de gens qui travaillent, donc une petite ambiance agréable, petite table en bois, tout ça, hein, puis tranquille. Et j'adore travailler dans les cafés. J'ai toujours travaillé dans les cafés, j'ai toujours fait comme ça. Alors au début, peut-être que c'était parce que ayant trois enfants garçons d'âge très proche, qui passent dans un sens en jouant aux Indiens, dans l'autre sens en jouant aux cow-boys, et puis au bout d'un moment hurle en disant papa il m'a tapé, enfin bon, voilà, c'est pas évident. Non mais et finalement je me rends compte que ça marche bien. C'est-à-dire, chez moi je tourne un peu en rond. Et quand je suis dans un café, avec cette espèce d'animation tranquille, ça me contient. Tout seul, je m'agite, mais quand je suis dans cette animation-là, c'est comme si je m'agite plus. Et je travaille. Alors bon, il faut pas qu'il y ait la télé, il faut pas qu'il y ait la radio, mais bon, voilà. Alors j'ai fait une découverte intéressante. Quand il y a de la radio comme ça, qui ça me gêne plus que quand il y a de la musique, mais quand c'est le tenancier du bar qui l'a choisi. Étrangement, et ça voilà, c'est... Non, je dis ça parce que en fait récemment j'ai trouvé la même chose dans un bouquin, quelqu'un qui racontait la même chose. Alors je sais pas pourquoi, enfin voilà, ça c'est des faits un peu d'observation. Je sais pas quelles sont les raisons. Donc j'ai toujours travaillé dans les cafés, donc j'amène, je travaille souvent à la main, enfin les premiers gestes sont toujours à la main. J'ai des cahiers, des carnets. Après, je transfère ça sur ordinateur. Après, je trimballe mon ordinateur, je réécris dessus. Puis après, je réimprime, je retravaille à la main sur l'imprimé. Puis après, je remets sur l'ordinateur. Enfin, c'est interminable. Par contre, il n'y a pas de beaux paysages autour de moi. Il n'y a pas, quand je travaille sur la peinture, il n'y a pas les tableaux devant moi. Et quand je travaillais sur des choses historiques, choses que je faisais avant, je fais encore, il n'y a pas tout autour de moi. Des bouquins ouverts pour me permettre de les consulter. C'est, en fait, c'est quand j'écris, c'est tout dans ma tête, et j'écris. Et après, bon, si documentation il y a, je le fais à d'autres moments de la journée. Voilà. Donc c'est... Non, c'est quelque chose de, voilà, d'un peu... alors, peut-être atypique, mais tous les écrivains sont atypiques, c'est-à-dire que l'autre jour, j'étais avec deux autres... écrivain où on... Alors, il y avait Mathias Hénard et puis Emmanuel Ruben, et on parlait de nos rapports à comment travailler. Et Hénard disait, oui, mais on travaille dans un café, non, c'est vraiment un truc de feignant, c'est pour... non, je travaille chez moi, tac, 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 voilà, à mon bureau, au calme, etc. Et Ruben disait, oui, mais moi je travaille dans des cafés, ça va mieux, mais j'ai des écouteurs et j'écoute de la musique. Et moi, ben, je dis, ben, je travaille dans un café, mais il ne faut pas qu'il y ait de musique, parce que ça... enfin, pas la mienne en tout cas, parce que autrement je l'écoute. Autrement, il faut qu'il y ait un brouhaha, et puis une légère agitation, et comme ça, je suis concentré. Donc, trois personnes, trois façons de faire différentes. En fait, on essaye de faire comme on peut. Et quand on a repéré son fonctionnement, ben, on essaye de s'y tenir, parce que ça a l'air de marcher.
Merci.
Non, ah non, 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 alors là vraiment, parce que les cours c'est beaucoup plus simple à faire. On sait un truc et puis on le met en forme. Non, non, là, alors par contre, si je, des fois les copies, j'allais les corriger au café parce que ça m'énervait tellement que j'en faisais 10 dans un café, 10 dans un autre, etc. Ça me permettait de mieux passer le temps. Mais autrement, non, non, j'étais, alors là pour le coup, j'étais avec un ordinateur chez moi.
Merci. Une autre question, mesdames et messieurs ? Alors, madame ?
Alors, suite à ce que vous venez de dire, que vous avez toujours plusieurs œuvres en parallèle en travail, à quel moment vous estimez que c'est fini et puis vous l'envoyez à l'éditeur ?
Alors ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de désir et d'exaltation intérieure. C'est-à-dire que quand on commence un livre, on a l'impression que tout autour de soi parle du livre. On trouve des tas de choses et pof, et puis alors il y a des choses qui viennent, je note ça sur des petits carnets, mais n'importe où, c'est dans le métro, dans la rue, etc. Ça vient, ça bouillonne. Je vois des choses à la télé, pof, ça parle de mon livre. Je trouve des bouquins, ça parle de mon livre, etc. Enfin bon, donc j'ai des grands cahiers où je note tout ça. Voilà, il y a toute une ébullition, puis après je me mets à écrire, ça se prend, hein. Puis petit à petit je commence à voir moins de choses autour de moi, puis finalement j'ai de moins en moins d'idées, puis il y a de moins en moins de choses qui arrivent comme ça spontanément, puis à un moment donné j'ai plus que le livre à faire, à essayer de l'arranger au mieux, et puis c'est comme s'il y avait une sorte de décrue comme ça. Et puis le livre se détache comme s'il n'y avait plus rien à rêver et au propos du livre. Il n'y a plus rien à. Finalement, il ne met plus dans un état d'exaltation. Donc il n'y a plus rien à rêver sur le livre et il se détache tout doucement. Et c'est le moment de le donner à l'éditeur.
Une dernière question, Alexis Yanni, mesdames et messieurs. Alors, si ce n'est pas le cas, vous retrouvez en fait 3 de ces livres pour des dédicaces juste à la sortie de la salle. En fait, le Goncourt en poche, là, L'art français de la guerre, ce nouveau livre Dans l'attente de toi, édition Iconoclaste, et puis le livre d'entretien avec Benjamin Stora, Les mémoires dangereuses. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin. Puis Alexis Yanni, merci infiniment pour cette rencontre passionnante. Merci.